Votre publicité ici, 027 327 20 20.
C'est une oise de la danse en costume d'époque comme lors de toutes ses représentations. Venir en aide à des enfants victimes de harcèlement physique et moral, c'est l'objectif de l'association romande Les Templiers. L'un de ses membres, le Montaisan Pascal Rigaud, nous en parle dans ce journal. Le conseiller fédéral Béat Jans a fait le déplacement cette semaine en Belgique pour évoquer la mise en œuvre du pacte européen sur l'asile et la migration. Un dossier complexe, nous dira notre correspondante à Berne.
Côté météo, on a le droit à une soirée en principe sèche pour demain, les précipitations seront de retour. Météo complète à la fin du journal. Et ce journal du soir, il vous est présenté par Didier Morard. Bonsoir Didier.
Bonsoir Kevin, bonsoir à tous.
La société Sion d'autrefois fait voir ses costumes lors de la première fête sédunoise de la danse.
Et plastron, chapon et corset étaient de sortie aujourd'hui à Sion. L'association folklorique Sion d'autrefois a présenté ses danses en habits d'époque aujourd'hui dans la capitale valaisanne. Ses 8 membres se rencontrent une fois par semaine pour se rappeler l'histoire. En garder une trace est important selon la présidente Isabelle Itten-Palatier. C'est pourquoi les robes et costumes de Sion d'autrefois sont fidèles au XVIIIe siècle et confectionnés avec soin. Ils sont cousus localement et sur mesure avec du tissu italien. Isabelle Itten-Palatier.
Quand les gens viennent, il y a la possibilité de louer un costume qui est déjà là. S'il n'est pas trop usagé, ils peuvent le racheter ou alors faire eux-mêmes un costume. On a une couturière, Madame Nicole Zermatten, qui a pris des mesures et qui connaît tout bien. Pour les chapeaux, on a trouvé une dame, Madame Claire Isabelle Héritier de Savièse. Elle nous a déjà fait, on appelle ça des pailles. Elle fait des pailles et après, c'est la couturière qui met les galons et le tissu selon l'époque. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces robes, normalement, elles sont uniques. Chacune a une robe de couleur, ça c'est la couleur est libre. Et puis, il y a soit des petites fleurs, soit c'est imprimé, ton sur ton.
Et l'association qui existe depuis 1937 s'est perfectionnée petit à petit dans leur réalisation. On retrouve Isabelle Itten-Palatier.
Tout au départ, bien sûr, on a pris le modèle sur un costume qui était au musée de Valère. Et puis, on avait constaté avec l'ex-présidente que les costumes anciens affinaient les dames. Que par la suite, ça avait changé. Et on a vu que le modèle avait été quelque peu modifié. Bon, ça, il y a des erreurs. Alors, avec la nouvelle couturière, on a réajusté. Ce qui fait qu'on a fait que les tailles soient plus fines, comme à l'époque.
Un sujet préparé par Lauriane Pipeau. Nouvelle convention collective de travail pour l'industrie de l'horlogerie. Le syndicat Unia annonce avoir signé hier à Neuchâtel la 16e CCT des industries horlogères et microtechniques. Ce contrat couvre près de 55 000 personnes en Suisse, dont 344 en Valais. Il leur permet de bénéficier de conditions de travail attractives, note Unia dans un communiqué. Parmi les avancées, l'augmentation de la durée de congé maternité et paternité, une hausse des salaires, un renforcement de la limitation du travail temporaire, de l'égalité salariale et de l'accès volontaire au temps partiel. Cette nouvelle CCT entrera en vigueur le 1er juillet 2024 pour une durée de 5 ans et demi. La commune d'Ayen reçoit Mallory Blanc. La municipalité organise ce soir une fête en l'honneur de sa skieuse, triple médaillée lors des championnats du monde junior 2024. L'Ayentote, qui s'est consacrée pour la première fois à 100% à la compétition cet hiver, a décroché l'or en super G, en combiné, en par équipe et l'argent en descente. La saison de Mallory Blanc s'est toutefois brusquement arrêtée après une blessure au genou une semaine avant les épreuves de Coupe du Monde de Grand Montana, où elle devait faire ses débuts au plus haut niveau. Pour cette réception à Ayen, Mallory Blanc sera accompagnée par plusieurs athlètes de Suiski pour des dédicaces, des rencontres et des échanges avec la relève et le public.
Venir en aide à des enfants victimes de harcèlement physique et moral. Et
c'est l'objectif de l'association romande Les Templiers. Particularité de l'association, elle est essentiellement composée de motards qui œuvrent bénévolement. Fondée en 2021, cette entité compte près de 60 membres qui apaisent les jeunes en souffrance en les accompagnant durant notamment sur le chemin de l'école. Une démarche qui ne laisse personne indifférent mais qui s'accompagne de son lot de difficultés. Les accompagnateurs ne font pas la loi et ne rendent pas justice pour les enfants victimes de harcèlement. Écoutez à ce propos le Montaisan Pascal Rigaud. Il est membre exécutif du comité de l'association Les Templiers Post-Ténébras Luxe.
Non, c'est clair, on n'est pas des justiciers, on est vraiment du côté de la loi, on respecte la loi, on respecte les limites aussi qu'on a. Toutes les demandes d'aide qui viennent chez nous, elles passent vraiment par un processus qui est bien défini, qui est décrit. On a un comité d'évaluation qu'on a nommé, on a la chance d'avoir chez nous des gens qui fonctionnent, hein, en tant que psychologues, psychiatre ou en tant que dans les forces de l'ordre, etc. Donc on a un environnement qui nous permet de s'assurer qu'on soit juste dans la démarche qu'on fait. Donc chaque demande d'aide, elle passe par ce comité d'évaluation qui fixe en fait les suites à donner. Puis ensuite, avant de faire quoi que ce soit, on va visiter la famille qui a fait appel à nous. Et puis l'objectif, c'est de discuter avec l'enfant lui-même. Donc on va toujours à plus que deux. Et puis on va écouter l'enfant. En fonction des cas, bon, on destine une stratégie. On n'a pas de stratégie définie au départ, mais c'est vraiment en fonction de la discussion qu'on a avec ses enfants, puis aussi avec les parents, on dit, OK, bah, les prochaines étapes, ça va être ça, ça et ça. Une fois qu'on a regroupé ces informations, on retourne vers notre comité d'évaluation et puis on remonte ces informations. Puis là, bah, celui qui est, par exemple, qui est dans les autorités va nous dire, fais attention à ça, si tu vas à cet endroit-là, il faut faire ces démarches-là, etc. Et puis les psys vont nous dire, écoute, va pas trop loin dans l'affectif ou des choses comme ça. Donc on a des mises en garde par ce comité d'évaluation. Puis après, on fixe une date et puis on intervient.
Et l'intervention peut se dérouler à proximité des écoles. Les établissements sont à chaque fois avisés de la présence de l'association. Les directions scolaires viennent bien souvent à la rencontre des membres de l'association des Templiers. On retrouve le Montaisan Pascal Rigaud.
Alors, depuis peu, les directions sortent un petit peu dans la cour pour voir ce qui se passe et viennent vers nous. Alors, c'est vrai qu'il a fallu du temps, il a fallu plusieurs fois pour arriver, peut-être aussi de la visibilité dans la presse, hein, qui a donné une certaine crédibilité à ce qu'on faisait. Donc là, ils viennent au contact de nous demander effectivement de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ont déjà certainement mis des choses en place, mais qu'est-ce qui se passe maintenant au moment où on est sur place.
Et des propos recueillis par nos confrères de Radio Chablais. La force hydraulique a représenté 57,6% de la production d'électricité en Suisse en 2023. Au 1er janvier dernier, la Suisse comptait 705 installations hydroélectriques en exploitation d'une puissance supérieure à 300 kW selon les statistiques annuelles de l'Office fédéral de l'énergie publiées cette semaine. Par rapport à l'année précédente, la puissance maximale au générateur a augmenté de 26 MW, une hausse due à la mise en service de plusieurs nouvelles centrales ainsi qu'à des rénovations d'installations existantes. Les cantons présentant les plus grandes perspectives de production sont le Valais, avec 10 335 gigawatt-heure par an, soit 27,8% du total. Les Grisons avec 7 900 gigawatt-heure, le Tessin et Berne. Le pape François a reçu Viola Amert, la présidente de la Confédération helvétique, ce matin au Vatican. Leur rencontre en tête-à-tête a duré plus de 25 minutes. Sur X, la Haut-Valaisanne déclare qu'elle a parlé de guerre civile au Soudan, de l'engagement commun en faveur du droit international humanitaire et contre la peine de mort. Au cours de la réunion qui a suivi avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pedro Parolin, la présidente de la Confédération a présenté la conférence pour la paix en Ukraine au Bürgenstock les 15 et 16 juin prochains.
Beat Jans a fait le déplacement à Gand en Belgique cette semaine.
Le conseiller fédéral a rencontré les ministres de la justice des autres États Schengen avec pour objectif d'évoquer la mise en œuvre du pacte européen sur l'asile et la migration. Le texte a été adopté début avril par le Parlement européen. Certaines dispositions sont contraignantes pour la Suisse, mais la concrétisation de ce pacte s'annonce complexe. Les explications de notre correspondante à Berne, Marie Vulmier.
Les réactions sont mitigées de tous les côtés depuis l'adoption de ce pacte européen et avec raison, car on ne sait pas encore très bien dans quelle direction on va. Des principes généraux ont été adoptés, traitement plus rapide des demandes d'asile, procédure préalable aux frontières extérieures de Schengen, retour plus efficace, solidarité entre les États, mais la manière d'appliquer ces mesures est encore bien floue. Et la mise en œuvre peut tout faire basculer, car ce pacte présente des risques pour le respect des droits humains, comme l'explique Philippe Leclerc, directeur du Bureau européen du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Avec des potentialités de ce texte d'avoir recours à la détention potentiellement pour les mineurs, alors que du point de vue du droit international, les mineurs ne devraient pas faire l'objet de détentions même courtes. Il y a un certain nombre de mesures qui, nous l'espérons, seront mises en œuvre de manière positive, bénéfique à ceux, notamment des personnes les plus vulnérables, qui doivent être identifiées le plus tôt possible, car vous imaginez bien que les personnes qui arrivent, certaines ont vécu des traumatismes qui ne sont pas forcément visibles, des victimes de trafic. Il est essentiel que, là encore, à l'arrivée, nous ayons des personnes les plus compétentes possibles pour faire la distinction entre les personnes qui vont aller dans des procédures plus rapides et des personnes qui doivent être acheminées vers des procédures plus longues, tenant compte de leur traumatisme, qu'il soit physique ou psychologique.
L'Europe se trouve donc à un tournant. Elle peut se barricader et devenir une forteresse peu soucieuse des droits humains, ou alors développer une politique exemplaire de traitement à la fois efficace et juste des demandes d'asile, avec une prise en charge rapide des personnes vulnérables, des procédures équitables et des renvois correctement exécutés. Surtout, les États devront prouver que cette solidarité prévue par le pacte n'est pas qu'un concept théorique.
Un mot de football, Christian Constantin ne désarme jamais. Le président du FC Sion va engager un combat juridique auprès du tribunal arbitral du sport pour demander de rejouer la demi-finale de la Coupe de Suisse contre le FC Lugano. Battu 2-0 par les Tessinois, le FC Sion a déjà vu sa requête refusée par l'Association Suisse de Football. Sûr de son droit, il estime que cette demi-finale n'aurait jamais dû se dérouler sans l'assistante de la VAR. Christian Constantin s'explique en grande partie par le pénalty accordé par l'arbitre qui a permis au FC Lugano d'inscrire le 2-0 peu après la pause.
Et merci Didier pour ce journal du soir.
Together. vous accompagne toute la nuit
avec ses meilleurs moments.
RON FM,
les 9h-11h,
pour mieux vous aider.
On accueille notre droguiste, c'est Jean-François Mottier de la droguerie de Valère à Sion. Bonjour Jean-François.
Bonjour Patrick.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Alors on va parler aujourd'hui de la chute des cheveux, c'est
oui.
Le thème.
Eh oui.
Toujours. Un problème très fréquent.
Absolument, très fréquent, un peu plus pour les hommes que pour les femmes, ça c'est androgénique, hein, c'est des problèmes hormonaux, mais c'est un problème qui touche vraiment à la personne, à la beauté. Alors les femmes y sont particulièrement sensibles évidemment, mais les hommes aussi. Des fois je les vois arriver un petit peu comme ça en catimini, ils n'osent pas trop dire, mais ça touche énormément.
Et tous les âges?
Tous les âges, et les jeunes très particulièrement. C'est difficile quand on a 25-30 ans de se rendre compte que à 35 ans ou à 40 ans, ce sera un petit peu le cocon. Mmh. Donc voilà, on cherche des solutions. Et il y en a, heureusement.
Heureusement, et vous êtes là.
Oui, on essaye.
Et c'est quelque chose qu'on a de la peine à accepter.
Oui, oui, clairement. C'est peut-être le médicament le moins cher qu'on pourrait proposer, c'est la psychologie pour accepter la chute des cheveux. Ça marche pas, apparemment.
Malheureusement.
Ça marche pas pour tout le monde. Mais évidemment, il y a plein de causes à ce problème-là. On a dit les problèmes hormonaux, mais évidemment les médicaments. Dans l'extrême, on connaît le problème des chimios. Alors là, malheureusement, ça se passe. Il y a quantité de phénomènes physiques. Et quand je dis physique, c'est le frottement. Donc ça peut être les chapeaux, les casquettes, le fun chaud, les bigoudis, des choses qui tirent sur le bulbe. Mmh. Forcément, c'est plus délicat un chignon que des cheveux longs.
Ouais.
Mais enfin, c'est joli aussi. Le brossage, alors pour les hommes, alors le best-of, c'est le coup du linge. On veut sécher les cheveux en une minute, on prend le linge et on tire comme des fous, et crac, 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 un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, faut pas. C'est ouais. Pas bien.
Prendre soin de ses cheveux, quoi.
Oui, c'est comme pour tout. Si on ultra sollicite, on casse. Alors, là, le problème, c'est qu'on va finalement atteindre le bulbe, donc la racine du cheveu. Mmh. Et puis, s'il n'y a plus de bulbe, s'il n'y a plus de racine, c'est comme pour les plantes vertes. On peut bien arroser, mais ça ne se passe pas très bien.
C'est vrai. Est-ce qu'il y a le stress aussi qui peut jouer?
Oui, bien sûr. Le stress est un facteur pour énormément de choses. Et on connaît même des situations extrêmes. Hein, où, ça ne vient pas tous les jours, mais des gens qui pourraient perdre leurs cheveux en une nuit. Hein, ça existe. Hein, des chocs très, très violents. Voilà, ça veut dire que l'émotionnel, comme dans beaucoup de choses dont on vient vous parler au micro, l'émotionnel, il a un lien extrêmement important sur le physique et inversement.
Ouais.
Le corps nous parle, il faut l'écouter.
Donc on va essayer de se rappeler et de se dire que c'est pas si grave de perdre ses cheveux, et c'est peut-être déjà le premier remède. Et puis on va parler de quelques chiffres intéressants dans quelques instants avec vous, Jean-François, concernant les cheveux.
Together.
Des cheveux avec Jean-François Mottier de la droguerie de Valère à Sion. Jean-François, quelques chiffres peut-être pour illustrer cette thématique. Quand est-ce qu'on sait qu'on perd les cheveux ?
Quand on en perd 101 par jour.
Ah, donc 100 c'est
parce
bon.
Parce que 100 c'est normal.
Okay. Donc il faut les compter.
Ouais, je vous laisserai les compter. Mais je crois qu'en tout cas, les femmes savent très bien ce qui se passe dans le lavabo. Et puis quand ça devient anormal, ça se voit quand même assez rapidement.
Donc si on en perd un petit peu, c'est pas dramatique.
C'est normal. C'est normal. Il y a trois phases. Hein. Il y a la pousse du cheveu, il y a une phase de stabilisation, il y a la chute. C'est tout à fait naturel et normal de perdre une centaine de cheveux par jour. Alors évidemment, ça dépend de nouveau des personnes, de l'implantation des cheveux, des cheveux épais, drus, des cheveux fins. Tout ça, ça change aussi le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, parce qu'on passe assez facilement de 80 000 à 150 000. On va dire.
Ça, c'est le stock qu'on a.
C'est le stock. Ouais. Alors, 100 par jour, vous voyez, le stock qu'on a, c'est pas dramatique. Mais ça, quand ça commence à devenir. Ça se voit, c'est considérable, ça se voit dans le lavabo. C'est vraiment le moment de faire quelque chose. Ouais, sinon, vous demandez à votre droguiste quand il vend beaucoup de produits pour déboucher les éviers. C'est qu'il y a un problème avec la chute des cheveux. Mais ça veut dire qu'il faut prendre les choses en le plus tôt possible. Mm-hmm. On peut faire de très bonnes choses quand on a du bulbe, quand il y a la racine. C'est clair que si la racine est morte, vous pouvez mettre tous les produits que vous voulez. On fait plus rien. Mm-hmm. Voilà, donc il faut s'inquiéter, il faut faire attention aussi aux produits qu'on utilise, particulièrement les shampoings. Parce que les shampoings, il y en a toutes sortes. Il y en a des chers, il y en a des pas chers. Alors, souvent, on entend dire que les chers sont trop chers, eh bien aujourd'hui j'ai envie de dire que les pas chers sont beaucoup trop chers, hein, parce que souvent c'est du détergent, hein, c'est du produit vaisselle, faut pas se leurrer, pour vendre 2 francs le litre d'un shampoing, vous pouvez pas avoir un produit qui respecte votre cuir chevelu et qui soit en douceur par rapport à celui-ci. Alors choisissez un bon shampoing, il existe déjà des shampoings pour la chute des cheveux, ça c'est intéressant, on amène déjà des petites quantités de substances au niveau du bulbe, mais évidemment il existe aussi des sérums, des baumes particuliers, spécifiques à la chute des cheveux, qui là localement peuvent déjà jouer un rôle tout à fait important. Hein.
On parle de se laver les cheveux, on évite de trop se laver les cheveux aussi.
Oui, absolument. De nouveau, aussi, tous les excès sont mauvais, et autant pour les organes internes que pour nos cheveux. Trop laver, vous rentrez, vous prenez la douche, et puis vous partez à la salle de sport. Deux heures après, vous reprenez la douche et vous refaites un deuxième shampoing. Eh bien, c'est une agression sur le cuir chevelu. On dégraisse, on ultra-dégraisse. Comme on fait souvent avec des mauvais shampoings, par exemple pour les cheveux gras, on dégraisse trop. Le corps va produire du sébum par réflexe en abondance. Donc on ne résout pas les problèmes. Hein. On traite un petit peu le symptôme ponctuellement, disons. Mais voilà, on ne résout pas les problèmes avec des mauvais produits.
On prend soin de son cuir chevelu, on le masse.
Absolument, absolument. Quand on applique un baume, par exemple, on n'est pas obligé de nouveau de frotter comme un sou ou d'employer les ongles. La même chose pour les cheveux. Hein. Aussi, une petite noisette de shampoing, normalement, ça suffit. Mais masser avec le bout des doigts, sans frotter forcément, mais simplement faire ces petits mouvements circulaires qui permettent aussi d'améliorer la micro-circulation au niveau du cheveu, au niveau du bulbe. Mmh. Et ça, c'est toujours très intéressant que le sang arrive au bon endroit. Voilà.
On va aller plus en détail dans ce qu'on peut faire et ce qu'on trouve chez le droguiste dans quelques instants. À tout de suite.
Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, t'envoie-moi. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Aïcha, Aïcha,
Stéphane.
Bonjour.
Ce dimanche, on va parler de la mâche.
Effectivement, c'est une salade qui est vraiment délicate, qu'on apprécie beaucoup. Je préfère la mâche même à la dent de lion, hein, qui des fois est beaucoup plus croustillante, enfin croustillante plus dure. Qu'on la choisisse pour accompagner les plats ou que l'on la préfère star dans l'assiette, on ne mâche pas ses mots sur cette herbacée qui ravit les papilles. Petite feuille ronde, de saveur délicate, texture tendre. C'est une salade aux mille vertus.
Quelle est l'histoire alors de cette mâche ?
Alors, elle était déjà consommée durant l'Antiquité. Il faut attendre la première moitié du 19e siècle pour qu'elle intègre pleinement notre paysage culinaire. Aujourd'hui, avec près de 20 000 tonnes de mâche par année, la France est le premier producteur européen. Cette salade apprécie des sols sableux et des climats tempérés.
Peut-être on pourra en planter tout plein chez nous.
Voilà, oui.
Ça continue. Alors, entre le sable et la chaleur, c'est un condensé de bienfaits, la mâche.
Oui, tout comme ses cousines, la laitue ou l'iceberg, la mâche est très peu calorique. Composée en majorité d'eau et de fibres, elle prend soin de notre système digestif. Son principal atout repose dans sa teneur en vitamines. Enfin, on peut souligner la forte présence d'oméga-3 participant à la prévention des problèmes cardiovasculaires.
Alors, concernant le choix et sa conservation.
Alors, mieux vaut choisir une mâche aux feuilles bien vertes et non abîmées et éviter celles qui présentent des extrémités jaunies ou flétries. Elles se gardent 3-4 jours dans le compartiment en bas de votre frigo.
Dans le tiroir, voilà. Et côté cuisine, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette mâche ?
Alors, grâce à son goût neutre et délicat, elle s'accorde à de nombreux ingrédients et trouve sa place dans nos salades. Concernant l'assaisonnement, préférez une sauce douce, sans trop de vinaigre, au risque de perdre l'équilibre des saveurs. On peut la déguster cuite de la même façon que les feuilles d'épinards, revenues à la poêle avec un peu de beurre. Ça, c'est ce qu'on a moins l'habitude quand même avec la mâche.
Ouais.
On peut la déguster en potage avec une pointe de crème. C'est une valeur sûre, d'ailleurs.
La mâche, mais elle porte aussi un autre nom.
Voilà, je pense que vous avez souvent utilisé le nom de rampon, surtout, de blanchette, clairette, herbe de chanoine ou doucette. Doucette et rampon, c'est quand même celle que l'on connaît le plus.
Effectivement, ouais, chez nous, c'est du rampon, hein, c'est la salade de rampon, en fait.
Voilà.
La mâche. Merci, Stéphane. Bon, on va peut-être pas prendre une petite salade de mâche pour déjeuner, mais plus tard, à midi.
Voilà, effectivement. Voilà.
Merci, bon dimanche, Stéphane.
Work it out. I wanna work it out, yeah.
Rhône FM, le programme du jour en nouvelle diffusion. Rhône FM, les conseils des centres cipés.
Et on retrouve Anne des centres cipés, éducatrice en santé sexuelle ce matin. Bonjour Anne.
Bonjour Anaïs.
Nous allons aborder un sujet un petit peu plus grave si j'ose dire, mais c'est justement tout l'intérêt de l'aborder et de l'exprimer. C'est la protection face aux abus sexuels, donc protéger nos enfants face à ces abus-là. Déjà la première des choses évidemment c'est comment aborder ce sujet et comment éduquer notre enfant autour de ce sujet-là.
C'est un sujet délicat, mais ô combien important. Ouais. Beaucoup de parents se posent ces questions-là. Comment j'en parle à mon enfant? Comment je le mets en garde? Une chose à savoir, c'est que faire peur ou interdire, ça ne va pas fonctionner. Ce qui est important, c'est d'apporter aux enfants des connaissances et puis aussi de renforcer leurs compétences. Au niveau des connaissances, on a parlé il y a quelque temps des mots pour désigner les parties privées, ouais. Et puis des règles qui les entourent. On aura déjà appris alors aux enfants que leur partie intime, comme tout leur corps, leur appartient à eux. Savoir que certaines personnes peuvent peut-être les voir, ou bien s'il s'agit d'apporter des soins, toucher ces parties intimes. En revanche, il y a certains touchés qui ne sont jamais permis, qu'on peut appeler un abus sexuel, sans forcément le nommer auprès des enfants. Oui. Mais on peut dire qu'il y a des touchés qui sont interdits. C'est si une autre personne veut t'obliger à montrer tes parties intimes, à les toucher, ou bien t'obliger à toucher ses parties intimes à elle. Et que ça, c'est interdit et que ce n'est jamais permis. Même si c'est une personne que l'on connaît bien, ce n'est jamais permis. Ce serait important de le mentionner parce qu'on sait qu'une grande majorité des abus sexuels sont commis par des personnes de l'entourage proche de l'enfant. Un autre message à donner aux enfants, c'est que si un jour ça arrive, ce n'est pas de la faute de l'enfant, c'est de la faute de l'autre personne qui a mal agi. Dédouaner l'enfant d'un éventuel sentiment de culpabilité, c'est aussi une information finalement importante à donner.
Comment l'enfant peut aussi des fois faire la différence entre les deux? Comment l'enfant peut se faire confiance aussi dans ses sentiments?
Alors là, on arrive dans les compétences à renforcer chez les enfants. Mmh. C'est important que les enfants ils soient au quotidien encouragés à percevoir et à exprimer leurs émotions. Et puis qu'ils sachent quel sens y rattacher. Et par exemple, c'est important que les enfants ils puissent percevoir que quand ils ont peur de quelque chose, c'est souvent qu'il y a une bonne raison qui fait que cette émotion-là s'agite dans leur tête, dans leur cœur. Et qu'il faut peut-être savoir se protéger. Ou bien le sentiment de colère, il vient souvent en réaction à une agression. Il faudrait que l'enfant il puisse aussi faire confiance à son ressenti corporel. Les enfants ils peuvent déjà apprendre tout jeune qu'il y a des touchés qui sont agréables, peut-être que certains massages, les caresses au chat, l'eau chaude qui coule sur le corps à la douche. Il y a des choses qui nous font du bien. Et puis à l'inverse, il y a des choses qu'on n'aime pas sur notre corps. Ça, c'est par exemple le pull qui gratte. Alors, à l'enfant, on va pas lui dire non, c'est pas vrai, ce pull-là il te gratte pas, parce que ça nous arrange pas qu'il aille changer de pull maintenant. C'est important de valider son ressenti et de dire ah oui, je comprends, ce pull-là il te gratte. Alors tout de suite, on n'a pas le temps, je suis désolée, mais on regarde ce soir ce qu'on peut faire pour couper l'étiquette ou pour régler le problème. De la même façon, l'enfant il doit pouvoir savoir qu'il y a certains gestes, c'est vrai, qui peuvent être désagréables, tout ce qui est autour du soin ou de la santé. En revanche, les gestes d'affection, les gestes de tendresse, ceux-là ils sont censés faire plaisir à tout le monde. Et les gestes de tendresse qui nous font pas plaisir, on a le droit de les refuser. Ce serait aussi, par exemple, les bisous qu'on demande aux enfants de faire.
Exactement.
Est-ce qu'on doit vraiment obliger notre enfant à faire un bisou à sa mamie ou à notre collègue de travail? Dans les messages de prévention des abus sexuels, l'idée, ce serait non. Si l'enfant nous dit que dans son corps, ça lui fait non, on va respecter ça. Mm-hmm. On va quand même demander de dire bonjour, ça bien entendu, la politesse reste. Mais on renforce les compétences de l'enfant pour affirmer son ressenti et dire non quand ça lui fait non dans son corps. Donc quand on a parlé de ces sujets-là avec l'enfant, on a pu faire de la prévention tout d'abord, parce que l'enfant il est informé. Et puis surtout, on s'est annoncé comme une personne de confiance, une personne qui pourra être à l'écoute si jamais un jour il s'est quand même passé quelque chose. Selon l'éducation qu'on avait nous-mêmes reçue, ou selon les situations de vie qu'on a déjà traversées, des événements difficiles en lien avec la sexualité, ça peut être compliqué d'aborder ces sujets avec les enfants. Et nous, les centres CIP, dans les centres de consultation, ou bien les personnes de l'éducation en santé sexuelle, on reste à disposition des parents qui auraient besoin de soutien ou d'aide pour aborder ces thèmes avec les enfants.
Merci beaucoup Anne. On va se retrouver dans quelques temps pour une nouvelle thématique.
Merci.
Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Charlotte don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, something you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together.
Belle soirée, les plus belles nuits.
C'est sur Rhône FM.
Avec les meilleurs moments de la journée.
Rhône FM.
À votre service tous les jours de 9h à 11h.
Rhône FM.
Notre droguiste, c'est Jean-François Moitié de la droguerie de Valère à Sion. Alors, Jean-François, qu'est-ce qu'on peut trouver en droguerie comme produit pour la chute des cheveux, pour éviter la chute des cheveux?
Alors, comme on l'a dit avant, évidemment, les applications locales. Et puis, par voie interne, on a différentes préparations naturelles. Je penserai au millet, qui est vraiment une plante assez extraordinaire parce qu'elle contient naturellement toutes sortes de principes actifs qu'on va rechercher ou isoler dans certains produits. Donc, les droguistes proposent des extraits concentrés de ces huiles de millet. Et ça va non seulement amener des substances actives au niveau du bulbe, mais ça va aussi améliorer la qualité du cheveu. Vous savez, on imagine ce cheveu fourchu, ces écailles qui se cassent comme ça sur ce cheveu. Et puis, ça veut dire qu'on va améliorer ça, on va améliorer l'éclat, on va améliorer la souplesse. Et puis, vraiment freiner et stopper cette chute de cheveux. Tant qu'il y a du bulbe, on l'a dit, c'est très important. On arrive à faire des jolies choses.
Et là, il y a une forte concentration en millet dans ce produit.
Oui, alors oui, c'est bien de le préciser parce que comme le millet est connu depuis très longtemps par rapport à ça, il y a des gens qui me disent « Ah bah oui, c'est bien, oui, oui, le millet, j'en prends, je mets tous les jours une cuillère de millet dans mon yaourt. » Alors je dis « Oui, oui, mais bon, faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de yaourt. » Parce que dans les capsules qu'on propose, il y a l'équivalent de 4 kilos de millet.
Ah oui, oui,
ça fait... Donc ça fait un gros yaourt quand même. Hein.
Que gros yaourt.
Et puis ce qui est intéressant à dire, c'est que souvent les problèmes étant liés, quand on prend des produits pour prévenir la chute des cheveux, on va aussi agir sur les ongles. Mm-hmm. On va les renforcer de nouveau, la qualité, la structure, qu'ils soient plus souples, qu'ils se cassent moins, qu'ils soient moins... friable comme ça. Mm-hmm. Donc c'est, et puis le quand on parle du millet, ben c'est la peau aussi, hein.
Ouais.
Donc il y a quelques effets secondaires positifs qui risqueraient d'intéresser nos auditrices, en tout cas
des effets secondaires positifs, j'aime bien ça. Autre produit qu'on prend interne,
alors on parle ces jours-ci sur les ondes de Rhône FM d'une préparation que les droguistes proposent, une nouvelle une composition d'acides aminés soufrés, on va dire des noms savants, la méthionine, la cystine, ça paraît des noms très chimiques. Mm-hmm. C'est des acides aminés, c'est des produits qui sont naturels, c'est des produits qui vont agir sur la kératine, donc sur la matière du cheveu, qui vont permettre d'augmenter le diamètre du cheveu aussi. On va retrouver des vitamines, la B6, la B9, la B8, la D3. C'est des substances qu'on trouve dans différents produits. Alors c'est intéressant parce que c'est une formule qui est bien composée. C'est une jolie formule. On amène vraiment les substances vitales nécessaires. Et puis le zinc est un oligo-élément extrêmement intéressant qui va jouer un rôle régulateur sur le sébum, sur la brillance, et puis sur les ongles aussi. Hein. Voilà, c'est des produits qui sont bien connus. C'est pas une vue d'esprit, c'est des produits pour lesquels on a des études cliniques qui ont été faites, une amélioration sur plusieurs mois de traitement quand même. C'est pas, comme tu dis souvent, c'est pas comme l'aspirine, une demi-heure après, le problème est résolu. Mais une amélioration, alors, constatée vraiment importante au niveau de la brillance, de la souplesse du cheveu, de la chute des cheveux, de la densité, hein. Et puis, 90% des gens voient la repousse stimulée et améliorée avec ce genre de préparation. Mm-hmm. Et c'est des produits qu'on prend vraiment sans problème. Hein, c'est 100% naturel. C'est des gélules qui sont végétales, c'est sans gluten, c'est sans lactose, c'est sans sucre. C'est sans rien. Non, pas tout à fait. Non. Il y a quand même quelques principes actifs qui nous intéressent. Mais c'est vraiment des très jolis produits. Ouais.
Ouais, donc rendez-vous chez votre droguiste. On va le retrouver dans quelques instants, notre droguiste, pour une dernière partie. Donc c'est le dernier moment pour poser vos questions par WhatsApp 079 327 1010.
Breathe.